Voici les titres du journal.
Écotube sera pleinement opérationnel dans moins d'une année. Le chantier lancé il y a 5 mois avance sans encombre. Il vise à connecter Satom au site chimique dans le but de lui fournir de la vapeur produite grâce à l'incinération des déchets. Malgré la pandémie, Vaud fait du bénéfice. L'exercice 2020 de l'État se solde sur un excédent de revenus de 6 millions de francs, et ce, malgré les dépenses imprévues du canton. La création d'un passeport vaccinal occupe l'esprit de nombreux pays et chacun y va de ses propres règles sous le regard du Conseil de l'Europe et de son observateur en chef, un conseiller national suisse. Et puis en football, le FC Sion n'a pas dit son dernier mot dans la lutte pour le maintien en Super League. Et sur les pistes glacées d'Ice Cross, l'hiver a été très calme pour la chablaisienne Anaïs Morand à cause de la crise sanitaire.
Et pour la météo, c'est du soleil et encore du soleil de prévu pour aujourd'hui et même pour ce week-end. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journaud. Bonjour Léa.
Bonjour. La construction d'écotubes avance bien. 5 mois après la pose symbolique de la première pierre, le bilan est réjouissant. Le chantier devrait être terminé au début de l'année prochaine, comme prévu. La pose des conduites est actuellement visible dans le secteur du manège de Montet et du pavillon des Mangettes notamment. Si le calendrier est pour le respecter, les plans initiaux ont toutefois été quelque peu modifiés en lien avec la troisième correction du Rhône. Les explications du directeur de Satom, Daniel Baïfar.
La prochaine étape, ça va être la liaison entre le couvert des Mangettes et l'usine Satom. Initialement, on avait un tronçon qui était aérien, mais là, on vient de remettre à l'enquête publique pour un nouveau tronçon souterrain le long du Rhône, puisque désormais, on connaît l'emprise du projet R3 et là, il y a un accès qui s'est libéré et dont on a profité. Alors, en principe, dans les prochains jours, on va commencer cette liaison de sorte que finalement toute la liaison entre Satom et le fameux manège sera souterraine.
Rappelons que le projet Écotube consiste à relier Satom à Simo dans le but de lui fournir de la vapeur via une conduite longue de 2,5 km. Quels avantages pour l'entreprise du site chimique Montezan? La réponse du directeur de la compagnie industrielle de Montet, Maurizio Ranzi.
Pour faire de la chimie, il faut de l'énergie. Cette énergie, au jour d'aujourd'hui, on la fournit surtout avec de la vapeur parce qu'elle est à 180 degrés, donc elle apporte beaucoup plus d'énergie que de l'eau chaude, tout simplement. Et jusqu'à maintenant, on produisait environ 75% de la vapeur avec du gaz naturel. 25%, c'est déjà de la récupération, puisqu'on brûle nos propres déchets et on récupère la chaleur. Et on cherchait un moyen de réduire cette proportion de gaz naturel. Et le projet avec la Satom a comme but, en fait, de réduire de moitié l'utilisation de gaz naturel. Donc, ça veut dire qu'à terme, l'année prochaine, 75% de la vapeur consommée sur le site sera d'origine renouvelable, ou en tout cas sera d'énergie recyclée.
L'économie ainsi réalisée en termes énergétiques représente l'équivalent de 400 wagons de mazout par année. Il faut dire que les besoins nécessaires au fonctionnement du site chimique sont énormes. Ils se comptent en tonnes, 80 tonnes de vapeur par heure précisément, un chiffre qu'explique facilement Maurizio Ranzi, le directeur de Simo.
Il faut savoir qu'on consomme, respectivement, on produit sur le site à peu près suffisamment de chaleur pour chauffer 40 000 villas familiales. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. Ça, c'est ce qu'on utilise par année. Donc c'est clair qu'on a besoin de beaucoup d'énergie. Et puis, 80 tonnes, ça paraît beaucoup. Et c'est beaucoup d'énergie. Mais c'est ce qu'on a besoin. On est quand même un gros, gros site industriel. Des fois, on l'oublie un tout petit peu parce qu'il est un peu noyé dans la ville. Mais c'est à peu près l'équivalent de 40 000 villas familiales qu'on consomme annuellement. Donc d'où l'énorme contribution de cette chaleur de la Satom va nous permettre de réduire notablement notre consommation de gaz naturel.
Encore un chiffre pour terminer, celui du coût total du projet. Il s'élève à 35 millions de francs et est assumé uniquement par Satom. L'usine d'incinération pourra toutefois compter par la suite sur des soutiens financiers externes en vertu de la loi sur le CO2, puisque le texte récompense les réductions d'émissions de gaz carbonique. Un sujet d'Alexandra Claude.
Les syndicats chrétiens du Valais ont défendu hier devant la presse leur demande d'augmentation des allocations familiales.
Lancée en septembre 2018, leur initiative a été déposée et validée une année plus tard. Elle réclame une hausse de 40 francs par mois de l'indemnité pour enfants, ce qui la porterait à 315 francs, et de 20 francs par mois pour l'allocation de formation professionnelle qui atteindrait 445 francs. L'an dernier, le Conseil d'État valaisan a décidé de soutenir cette initiative, mais aujourd'hui, la commission du Grand Conseil chargée d'examiner le dossier oppose. Aux allocations familiales qu'elle qualifie de mesures arrosoires, elle préfère les allocations de ménage jugées plus ciblées. La commission des institutions et de la famille a donc élaboré un contre-projet visant à mieux doter le fonds cantonal pour la famille. Hors sujet, rétorque la présidente des syndicats chrétiens du Valais, Carole Fourère.
Le Valais doit augmenter ses allocations familiales. D'autres cantons comme Vaud et Genève viennent le faire. Ils ont des montants supérieurs au Valais. Et on vient d'avoir une étude faite en 2019-2020 et on voit une grande pauvreté au niveau des familles. Et augmenter les allocations familiales, c'est le meilleur moyen de soutenir les familles. Un enfant, une allocation familiale.
Les allocations familiales ont ceci de particulier qu'elles profitent à tout le monde, y compris aux familles les plus aisées. Est-ce que c'est vraiment le bon moyen de soutenir les familles les plus modestes ?
Une allocation familiale en enfant, toute famille, qu'elle soit riche ou pauvre, a le droit des allocations familiales. Et ensuite, c'est par la fiscalité qui est très progressive que cela fait que les familles moins aisés profitent nettement plus de l'augmentation d'une allocation familiale que les familles aisées.
On sait aujourd'hui que la commission Institutions et Familles du Grand Conseil est opposée à votre initiative. Elle propose un contre-projet. Qu'est-ce que vous pensez de ce contre-projet ?
Ce n'est pas un contre-projet à notre initiative. Notre initiative parle d'allocation familiale. Le contre-projet de la commission Institutions Familles parle d'allocation de ménage. On compare des pommes avec des poires.
Des propos recueillis par nos confrères de Rhône FM. Le Grand Conseil valaisan se saisira du dossier dès le 4 mai prochain. Suivant l'issue des débats, le peuple pourrait être amené à voter sur l'initiative et un contre-projet.
Après 4 ans de discussion, les travaux pour la transformation de l'avenue de la gare de Martigny sont enfin lancés.
Le premier coup de pioche a été donné hier. Cette transformation se fera en 3 étapes. Le premier tronçon de la gare jusqu'au Minotaure se terminera en novembre prochain. Avant de pouvoir commencer les travaux, il a fallu discuter avec les riverains et les convaincre que le projet était le bon. Une phase qui n'a pas été si difficile pour Anne-Laure Couchepin-Vouillot, présidente de la ville de Martigny.
Et il y a eu que 2 oppositions qui ont finalement été levées. Donc c'est que les gens ont été convaincus, les propriétaires, que c'était une bonne chose. Ils ont joué le jeu soit de vendre un bout de leur trottoir, soit de laisser faire l'aménagement jusqu'en front de bâtiment. Donc ça a été toute une période de contact, ce qu'on a soigné, pour justement arriver avec un projet concerté qui plaise. Maintenant, il y a la phase douloureuse qui commence, parce qu'un chantier, c'est des nuisances. Évidemment, ça, tout le monde en est conscient. Les entreprises ont vraiment été drillées pour réduire au mieux toutes les perturbations qu'il y aura, que ce soit de la poussière, du bruit, des coupures d'eau, et puis les riverains seront informés au fur et à mesure de ces enjeux.
Ces travaux de réaménagement de l'avenue de la gare sont également l'occasion de réparer et rénover les réseaux souterrains. Explication de Dorian Farquet, conseiller municipal en charge des travaux publics.
Cette avenue date des années 50, donc les réseaux souterrains, ils sont devenus usagés, et puis il y avait nécessité également de les remplacer. Donc nous profitons également de ces travaux pour faire une réfection complète, que ce soit des eaux usées, des eaux claires et autres. Et puis on profite également en parallèle de refaire toute la partie électrique de la rue, en changeant l'éclairage notamment et en passant avec du LED.
Concrètement parlant, on va trouver quoi quand on va arriver sur ce premier tronçon ? Qu'est-ce qu'on pourra voir ?
Alors on pourra avoir un gros changement au niveau de la mobilité douce, avec un passage actuel de 3 mètres, on finira à une largeur de 7 mètres à peu près dédiée à la mobilité douce, avec une grosse partie dédiée avec des terrasses pour les différents commerces, avec de mobilier urbain également aussi, pour que les gens puissent vraiment s'approprier ce lieu et puis passer des moments de détente, et tout cela sous des gros arbres qui amèneront de l'ombre tout au long de cette avenue.
Une façon également de donner aux habitants l'occasion de revivre leur ville. On retrouve Dorian Farquet.
Dans la période où on vit actuellement, c'est vraiment de redonner cet axe qui est principal pour la ville de Martigny à la population, à la mobilité douce, pour vraiment profiter. On aura également l'installation de différentes œuvres d'art, on aura des points d'eau, donc c'est vraiment l'objectif, c'est de redonner ça à la population.
Oui. Faire revivre Martigny un peu.
C'est de redynamiser un petit peu cette avenue qui date effectivement un peu au niveau des années 50, et puis de pouvoir vraiment créer un axe principal entre la gare et la place centrale.
À noter que pour financer le réaménagement de l'avenue de la gare de Martigny, un crédit de 10 millions de francs avait été débloqué il y a 2 ans.
L'économie vaudoise a affiché une bonne résilience l'année dernière.
Ce sont les mots du grand argentier Pascal Broulis au moment de présenter les comptes 2020 de l'État. Et surprise, l'exercice se solde sur un excédent de revenus de 6 millions de francs malgré la pandémie de coronavirus. Hors Covid, la croissance des charges courantes est de 3%. Principales augmentations, la santé et le social. Concernant la pandémie de Covid-19, elle aura coûté 521 millions aux caisses de l'État de Vaud en 2020. Et malgré ce demi-milliard de francs de dépenses imprévues que le canton a dû sortir, les comptes sont au final équilibrés. Une stabilité qui s'explique de plusieurs façons, selon Pascal Broulis, conseiller d'État vaudois en charge des finances.
Ça montre que le fait d'avoir misé sur des politiques de diversification du tissu économique, d'avoir un réseau d'entreprises de construction important au niveau du canton, d'avoir un secteur primaire avec l'agriculture, d'avoir un secteur secondaire industriel important et puis après du tertiaire qui s'est très bien diversifié, fait que vous répartissez les risques. Et forcément que si vous répartissez les risques, eh bien, les entrepreneurs n'ont pas envie comme ça de licencier des gens, puis trouvent des solutions, essayent de travailler dans cette période de blocage qui a été extrême. C'est clair qu'il y a une année, moi je faisais des séances de crise où on discutait de la chute de la bourse, on discutait de problèmes de fermeture de frontières, de savoir si on resterait ouvert ou pas avec les voisins. Et puis on constate que le canton de Vaud, depuis de nombreuses années, par sa politique d'ouverture, par sa politique d'investissement ciblé, porte ses fruits.
Des propos recueillis par nos confrères de LFM, la dette du canton, elle, ne bouge pas par rapport au compte 2019. Fin décembre dernier, elle atteignait 975 millions. L'établissement d'un passeport ou d'un certificat Covid préoccupe tous les pays européens en particulier. Tous souhaitent développer un système qui puisse être interconnecté pour faciliter les voyages. Mais chaque pays fixera ses propres règles internes. Gardien du temple des droits démocratiques, le Conseil de l'Europe, qui réunit 47 pays du continent, observe la mise en place de ces passes Covid. Et l'observateur en chef est un conseiller national suisse, le PLR neuchâtelois Damien Cottier. Il siégeait à Strasbourg cette semaine.
Chaque pays va développer son propre système, mais il faut qu'il y ait une interconnectivité du système. Et ça, c'est ce que développe l'Union européenne. Et en principe, la Suisse est censée être intégrée dans ce système de l'Union européenne. Nous, sur quoi nous insistons au Conseil de l'Europe, c'est que l'utilisation au niveau des prestations nationales ne crée pas des discriminations graves entre les différents segments de la population.
Ceux qui refuseront d'être vaccinés, est-ce que ça va devenir des citoyens de seconde zone ?
C'est ce qu'il faut éviter, en fait. Si on n'a pas accès à un certain nombre de prestations d'importance qui n'est pas primordiale pendant un temps limité parce qu'on n'a pas pu être vacciné ou parce qu'on ne le souhaite pas, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement accepter. On vit avec des privations et des complications dans nos libertés depuis maintenant une année. Si quelqu'un qui ne souhaite pas se faire vacciner ne veut pas accéder à un festival de musique ou ne peut pas aller à la piscine publique, je ne pense pas que ce soit très problématique. Si par contre, sur une plus longue durée et sur des prestations plus essentielles, vous avez dans certains pays des personnes qui ne peuvent plus accéder, pensons à la formation par exemple, alors là, vous créez des citoyens de seconde zone. Ça, ce serait inacceptable en termes de droits fondamentaux et c'est à ça que le Conseil de l'Europe veut veiller.
Des propos recueillis par Serge Jubin. En Suisse, le Conseil fédéral prévoit l'émission du certificat Covid à la mi-juin.
Les mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19 sont-elles disproportionnées ?
C'est ce que se demande le comité Printemps 2020 qui lance une pétition. Munie de 55 000 signatures, elle a été remise hier au Parlement fédéral. Le texte demande la mise sur pied d'une commission d'enquête extra-parlementaire. 10 revendications figurent sur cette pétition qui remettent en question notamment les aspects médicaux, sociaux et éthiques des mesures de lutte contre le coronavirus. Des compromis sont encore possibles sur l'accord cadre entre Suisse et Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a assuré aujourd'hui. C'était juste avant une réunion avec le président de la Confédération, Guy Parmelin. Guy Parmelin qui se trouve donc à Bruxelles pour faire le point sur les derniers enjeux encore ouverts concernant l'accord, la protection des salaires, les aides d'État et la directive sur la citoyenneté européenne.
L'OMS appelle les États à davantage d'efforts.
Un an après le lancement de l'accélérateur pour un accès équitable au vaccin contre la pandémie, 4 doses sur 5 ont été acheminées dans les pays riches et 0,3% dans les pays pauvres. Malgré ces inégalités, cet accélérateur a permis ces derniers mois de démarrer l'immunisation contre le coronavirus dans plus de 100 pays. En tout, 50 millions de doses ont été acheminées. L'objectif final est d'environ 2,5 milliards d'ici la fin de l'année. Des affrontements entre les forces policières israéliennes et des manifestants palestiniens ont fait plus d'une centaine de blessés au cours de la nuit à Jérusalem, selon des sources médicales et policières. Ils ont eu lieu en marge d'une marche organisée par le mouvement juif d'extrême droite Lahava. La police a ajouté avoir arrêté 44 personnes lors de ces affrontements, les plus violents de ces dernières années dans la ville sainte. L'armée russe a entamé son retrait de zone frontalière de l'Ukraine, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Défense. Ses troupes y étaient massées depuis des semaines, provoquant un regain de tensions internationales. Un retrait débuté en Crimée au lendemain d'exercices ayant réuni quelques 10 000 hommes dans cette région. Football, le FC Sion n'a pas perdu tout espoir de se maintenir en Super League. Lanterne rouge du classement, la formation valaisanne a repris du terrain à ses concurrents hier soir à Genève. Les hommes de Marco Walker ont en effet remporté le derby du Rhône face à Servette au terme d'un match complètement fou. Privés de victoire depuis le 7 mars à Lausanne, les Sédunois ont disposé des grenats sur le score de 5-3. Après avoir mené à deux reprises de deux longueurs, les joueurs du FC Sion ont joué à se faire peur. Mais ils ont eu les nerfs solides, même si ce succès très précieux dans la lutte contre la relégation a parfois tenu à un fil. Les impressions du gardien Kevin Fickenscher.
Ouais, c'est fou et ça, il faut absolument qu'on corrige. On se crée des super chances, on marque et puis derrière on est fébrile. Mais c'est aussi de notre place au classement. C'est clair qu'en ce moment c'est compliqué. On a eu une grosse déception aussi à la maison contre Zurich où on prend ce but de nouveau à la fin. Les fins de match n'ont pas été toujours dans notre avantage. Donc c'est clair que ça travaille dans la tête. Et puis ça, on doit essayer de corriger parce qu'on ne va pas toujours marquer 5 buts. Aujourd'hui, on prend ces 3 points, c'est chouette. Mais il faut rester lucide. On est encore en bas du classement, il y a encore des points à rattraper. Donc ça, il faut qu'on garde ça en tête. Mais si on joue comme ça, on a des chances de s'en sortir. Mais une fois de plus, ce n'est pas fini. Donc récupérons et puis repartons à la bataille.
Des propos recueillis par nos confrères de Rhône FM. Au classement, cette victoire permet au FC Sion de revenir à 3 longueurs de Vaduz, 9e et avant-dernier, mais aussi à 4 points de Saint-Gall qui se trouve juste au-dessus de la barre.
Direction maintenant les pistes verglacées d'Ice Cross avec un retour sur la saison d'Anaïs Morand.
À 28 ans, l'ancienne patineuse artistique de Vouvry a vécu un hiver très particulier. En raison de la pandémie de coronavirus et d'une fracture du talon à la fin de l'été, la Chablaisienne a préféré ne pas disputer la moindre compétition. La spécialiste de ses descentes très spectaculaire, truffée d'obstacles, n'aurait toutefois pu s'aligner que sur 2 courses. Face à la situation sanitaire, le calendrier a en effet été amputé de la plupart de ses rendez-vous. Au sortir de cet exercice 2020-2021, plusieurs incertitudes entourent ainsi l'avenir de ce sport, encore fortement méconnu dans nos contrées. Anaïs Morand fait le point.
L'état de forme de notre sport cet hiver, c'est vrai qu'il n'était pas du tout au top. Mais on a quand même 2-3 chefs qui organisent les courses, qui essaient de garder la tête haute, de trouver des solutions pour l'année prochaine. Il y aura peut-être un gros sponsor en moins, donc va falloir trouver un peu des autres solutions. Mais je crois qu'il y a quand même assez d'organisateurs qui n'aimeraient pas que ce sport meure, si j'ose dire. Donc là, en tout cas, en Suisse, avec l'association, on aimerait vraiment pouvoir organiser une étape dans une station de ski valaisanne comme Vézona ou peut-être sur Vaud, Les Ains, Villars. Et puis quand même pouvoir commencer à lancer un peu plus ce sport en Suisse parce qu'il est quand même très peu connu chez nous. On compte sur les bons hockeyeurs et bons skieurs pour se lancer dans ce sport, on espère, dès déjà l'année prochaine.
Des propos recueillis par Julien Traxel. D'un point de vue personnel, Anaïs Morand ne sait pas encore ce qu'il adviendra de la suite de sa carrière dans le monde de l'ice cross. La patineuse de Vouvry a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne disputerait pas de compétition la saison prochaine.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch.
La météo avec Store Chablais. Pour vos volets et moustiquaires, storechablais.ch, partenaire Stobag.
C'est un temps ensoleillé qui nous attend pour cet après-midi avec tout de même quelques rares cumulus sur les crêtes et une bise modérée, faible à modérée pour être précis sur la Riviera. Il va faire jusqu'à 19 degrés en pleine cet après-midi, 13 à 1000 mètres. Pour ce week-end, le soleil va régner en maître et ça c'est une très bonne nouvelle avec tout de même l'après-midi toujours ces cumulus qui vont bourgeonner en montagne. Dimanche peut-être un peu plus de nuages mais le sentiment de beau temps prédominera. Il va faire au maximum 20 degrés en pleine ce week-end, 16 à 1000 mètres. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.